Shivaya.
Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Vous venez d'entendre un extrait de Sagesse, l'album de Stéphane Hérault, qui s'appelle Om Namah Shivaya. Alors, cette occasion, nous avons justement la chance de recevoir le chanteur, créateur, initiateur de cet album, mais pas que. Nous allons voir la suite au cours de cette émission. Bonjour Stéphane.
Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous.
Tu nous fais le privilège de venir à participer à l'émission, mais aussi de nous présenter ton album Sagesse, ainsi que ton livre Les 4 Sagesses du Yoga.
Oui, tout à fait, oui.
Qui est paru aux éditions Le Duc. Stéphane, tu es multifonction, tu es le couteau suisse de l'accompagnement.
Ça, c'est une belle image.
Coach de vie, mais également conférencier, enseignant, formateur de yoga, de méditation, concepteur de ce magnifique CD que tu nous as fait le réel privilège de faire écouter aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait te définir en quelques mots pour nos auditeurs ?
Bonne question. Moi-même, c'est toujours une question que je garde à l'esprit. Comment je peux me définir ? Qui suis-je ?
Parce que sur le papier, on voit coach de vie. Coach de vie, ça veut dire beaucoup de choses.
C'est vrai.
Mais toi ?
En ce qui me concerne, je considère beaucoup plus comme une personne, un grand frère, qui a le plaisir d'accompagner un petit frère ou une petite sœur sur le chemin de vie pour justement permettre de franchir un cap des fois. C'est important, des fois on a besoin de franchir un cap et des fois on ne sait pas quel outil on a besoin vraiment pour franchir ce cap. Alors c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de flèches à mon arc. Essentiellement, je suis effectivement expert en transformational life coaching. Donc c'est permettre aux gens d'aller puiser en eux-mêmes les ressources nécessaires pour passer peut-être une phase difficile, mais une phase de transition des fois, une phase d'élan pour aller vers autre chose. Et puis aussi, depuis plus de 25-30 ans, j'enseigne la belle sagesse du yoga. Alors à travers ces différentes facettes, pas simplement l'aspect postural, mais à travers aussi la facette respiratoire, méditative, ou de toutes les autres grandes voies. D'ailleurs, c'est l'objet de mon livre, Les 4 sagesses du yoga, c'est vraiment parler de toute cette diversité où chacun peut s'y retrouver. Et puis, je suis créateur de certains programmes en ligne, dont un qui s'appelle le programme Les 5 souffles vitaux, où j'apprends aux personnes à mieux respirer. C'est très diversifié, mais essentiellement, c'est vraiment accompagner la personne là où elle en est, là où elle est, pour aller vers là où elle veut vraiment aller.
On va revenir à ton livre, Les 4 sagesses du yoga, où, comme tu le précises, on ne s'arrête pas à la posture en soi du yoga.
Non.
On est plus dans une dimension philosophique, introspective.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aborder la philosophie yogique, la philosophie respiratoire, par le biais d'un livre ?
Effectivement, comme je te le disais à un moment donné, Daniel, c'est un des rares livres où il n'y aura pas de posture de yoga. Ce n'est pas ce qu'on va chercher dans ce livre. Mais par contre, c'est comprendre d'où vient cette sagesse du yoga. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est très, très diversifié. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de noms, des fois même un peu trop à mon goût, parce que ça perd les personnes dans cette recherche du yoga. Mon objectif, c'était à travers ma compréhension de ce cheminement qui a pris racine il y a très longtemps, c'était en 1996, lorsque j'ai fait mon premier voyage en Inde. À partir de là, je me suis vraiment intéressé à toute cette philosophie parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, venant d'une tradition chrétienne, venant d'une tradition où j'avais aussi dans mon voisinage beaucoup de camarades qui étaient, eux, musulmans, en fin de compte, il y avait une sagesse vraiment, je dirais, un retour à l'essentiel avec des valeurs communes. Et quand on prend la grande sagesse du yoga, à travers la sagesse védique qui est à l'origine de cette voie du yoga, on s'aperçoit qu'il y a 4 cadeaux que cette voie nous offre. Le premier, c'est tout l'aspect, et ça c'est le premier yoga, c'est Raja Yoga. Raja Yoga, c'est tout l'aspect contemplatif, méditatif. Alors on va trouver bien sûr l'aspect respiratoire, l'aspect, je dirais, beaucoup plus postural. Et après, il y a une deuxième voie qui s'appelle Jnana Yoga. Et Jnana Yoga, c'est beaucoup plus la sagesse, la connaissance. Ensuite, la troisième voie, c'est Karma Yoga, c'est le service désintéressé. Et puis, il y a Bhakti Yoga, qui est beaucoup plus à travers, d'ailleurs, le chant des mantras, à travers toute cette voie des mantras, des bhajans. C'est une voie de dévotion. Et quand on regarde les grandes traditions, on retrouve ces 4 grandes voies. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de partager. C'est-à-dire qu'à travers mon prisme, à travers mon expérience, je me suis dit, on ne peut pas cantonner le yoga à l'aspect postural. C'est impossible. c'est beaucoup plus vaste. C'est comme si on parlait de la danse et je parle de la danse moderne jazz en pensant que c'est que la danse. Non, il y a tellement de diversité. C'est une vraie tradition. Ça vient de très loin dans le passé. C'est une tradition aussi de maîtres à disciples qui ont préservé cette richesse de cet enseignement. Et aujourd'hui, oui, c'est accessible, mais ça ne vient pas de n'importe où. Donc c'était surtout mon désir de remettre, de reposer les bases à cette connaissance du yoga à laquelle, je pense, on apporte un peu trop d'importance à l'aspect postural, alors que c'est sur la voie du yoga, c'est vraiment l'aspect postural, c'est une toute petite partie.
Qui dit posture dit aussi dans l'approche du yoga l'importance de la respiration.
Oui.
Ce qui est, je sais, très important dans ton approche à toi et dans ce que tu transmets. Quelle est ta vision des choses par rapport à la respiration?
Disons que la respiration, déjà, c'est le lien. C'est le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Mais c'est aussi, la respiration, c'est le premier acte qu'on fait en venant sur cette planète. Et c'est le dernier acte qu'on fera en partant de cette planète. D'où vraiment la prise de conscience de l'importance de cet acte qui est de respirer. En sommes-nous conscients de cette respiration au quotidien? Pas tellement. Si on observe nos émotions, elles changent complètement notre schéma respiratoire. Une personne qui va être en colère va avoir une respiration courte, rapide, saccadée. Une personne qui est triste va expirer plus qu'elle inspire. Une personne qui a peur, une respiration en suspens. Et puis une personne qui est joyeuse, elle va inspirer beaucoup plus qu'elle expire. Donc on respire 24 heures sur 24, c'est notre meilleur allié, notre meilleur ami, parce que le jour où celui-ci part, il n'y a plus personne sur cette planète. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire que c'est l'acte le plus important de notre vie, au-delà de toutes les relations, les fonctions, les situations qu'on peut vivre, c'est l'acte le plus important, parce que le jour où celui-ci s'arrête, tout s'arrête. Donc on respire 24 heures sur 24, mais on le fait pour 99,999% des personnes, on le fait d'une façon inconsciente et involontaire. Le bonheur, c'est lorsque on commence à rentrer dans toute cette belle science que l'Inde et le monde du yoga nous a offert, la science des pranayama. Prana veut dire l'énergie vitale, et yama c'est héberger ou contrôler selon certaines traditions. C'est que je peux le rendre conscient et volontaire. Et là, ça va changer tout. Parce qu'au lieu que ça soit unilatéral, je vis certaines émotions, ça change le schéma respiratoire, et ça engramme certaines charges émotionnelles, empreintes psycho-énergétiques dans mon corps. En fin de compte, je peux faire l'inverse. À travers la respiration, je peux faire le chemin inverse. Donc, apprendre à mieux gérer mes émotions. En fin de compte, il y a un grand pouvoir qui se cache derrière le souffle. Et c'est ce que j'invite les personnes à aller découvrir. C'est savoir qu'on a un trésor avec nous, mais est-ce qu'on l'a dévoilé encore? Est-ce qu'on l'a trouvé? Est-ce qu'on est à la recherche de ce trésor ou pas? Donc, c'est vraiment le but de ce livre.
Et puis, la question, je pense que tous les auditeurs vont se poser à ce moment précis, est-ce que je respire?
Exactement.
Cette fameuse question que l'on peut se poser très légitimement, de toute façon, c'est est-ce que je respire bien? Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je respire suffisamment?
Bien sûr.
Ça peut aussi intervenir. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui peuvent se poser ce genre de questions?
Déjà, rien que le fait de se poser une question, qui est celle-ci, c'est je deviens conscient de mon incompétence qui serait je ne sais pas respirer. Donc déjà, tu as fait une sacrée étape, Daniel, parce qu'un grand nombre de personnes, en fin de compte, s'arrêtent à la première étape, ils sont inconscients de leur incompétence. Quand j'enseigne beaucoup, notamment à travers notre école de yoga qui s'appelle Nataraj Sadhana Yoga Studies, on s'aperçoit que les gens, dans les premiers moments, ils disent « mais j'ai toujours eu l'habitude de respirer par la bouche, c'est la première fois que je respire des fois, en tout cas avec ce que tu nous enseignes, par le nez ». Et des fois, Daniel, c'est vraiment une découverte. Les gens ne se rendent pas compte que vraiment l'organe principal pour respirer, c'est le nez. Et ils sont bloqués avec la respiration par la bouche. Donc c'est intéressant de cette première étape en disant « Eh oui, en fin de compte, ce n'est pas une compétence pour moi. Je ne sais pas encore respirer et j'ai envie d'apprendre. » Donc là, tu passes à la troisième étape qui est où tu vas mettre de la conscience pour acquérir cette nouvelle compétence qui est la respiration pour après être inconscient de cette nouvelle compétence qui sera je dirais la cerise sur le gâteau. Mais pour toutes les personnes qui se posent la question, je dirais, c'est une bonne question à se poser et c'est important de prendre du temps pour apprendre à respirer. Parce que à travers la respiration, justement, il faut savoir que la plupart du temps, les gens, ils respirent à 30% de leur capacité respiratoire. 30%.
Et les 70, ils sont où?
Et bien justement, ça c'est une très bonne question. Alors, ce qui va se passer, c'est que si on observe, et puis dans la tradition du yoga, on enseigne un souffle qui s'appelle la respiration yogique, où on fait prendre l'attention d'abord sur la respiration abdominale, ensuite sur la respiration thoracique, et puis ensuite la respiration claviculaire. Donc ça, c'est la troisième partie. Il faut savoir que chaque partie respiratoire est associée aux différents lobes des poumons. Abdominal à la partie basse inférieure des poumons, la thoracique, donc toute la cage thoracique, hein, avec la partie médium, et puis la claviculaire avec la partie haute des poumons, le lobe supérieur. Comme les gens respirent à 30% de leur capacité respiratoire, c'est-à-dire que un peu avec le ventre, un peu avec le thorax, poitrine, très peu avec la partie haute, ou des fois ils sont trop en superficie et sont que dans la partie haute, donc en fin de compte, les 70%, ils sont dans les oubliettes. Et quand on sait que lorsque j'inspire, le nez est essentiel parce que le premier barrage, ce sont nos cils. Donc ça évite à toutes, justement, les poussières, toutes les indésirables de ne pas rentrer dans cette respiration. Et au niveau de notre nez, au niveau de nos narines, il faut savoir qu'on a trois conduits de chaque côté qui sont créés par des couanes. Donc c'est trois canaux respiratoires et après ça va passer par le sinus, pharynx, larynx, bronches, bronchioles. Et au bout de ces bronchioles, il y a des petites alvéoles et on en a des milliards. Donc ces milliards de poches qui permettent en fin de compte l'échange des gaz, l'échange gazeux, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on inspire, on fait rentrer l'oxygène, et lorsqu'on expire, on fait sortir le dioxyde de carbone. Mais cet échange gazeux est proportionnel à notre capacité de respiration. Donc si on respire un petit peu avec telle ou telle partie, mais pas complètement avec les trois parties, ça fait qu'on respire à 30% de notre capacité respiratoire, c'est-à-dire que notre capacité d'oxygénation est aussi de 30%, et notre capacité d'éliminer les toxines, le dioxyde de carbone, mais aussi tous les autres, ça peut être les toxines liées à l'alimentation, etc., etc., eh bien, c'est aussi 30%. Donc, en fin de compte, ces 70%, c'est un manque à gagner. C'est comme si, je prends toujours cet exemple, Daniel, c'est comme si on est dans notre cuisine, et puis on a notre poubelle, elle est remplie à bloc, et je sors pour la vider, et je vide que 30%. Je reviens avec les 70%, mais c'est pas grave, Daniel, j'ai une idée. Je vais acheter une plus grosse poubelle. Et je fais mon jeu, et à un moment donné, la poubelle, elle remplit ta cuisine, et là, tu dis, non, j'en peux plus. C'est une image où on peut rire avec ça, mais à la fois, c'est ce qui se passe dans notre corps, c'est-à-dire que notre corps, lui, il est limité. Il est quantifiable, il ne peut pas prendre une expansion et accueillir autant de toxines qu'on pourrait simplement se laisser aller. Non, il a une certaine limite. Donc le fait de ne pas utiliser la respiration à 100%, c'est un manque à gagner déjà pour se libérer des toxines qu'on accumule dans le corps. Donc la respiration est essentielle pour moi et pour tout le monde qui respire sur cette planète.
Humain, non-humain, c'est aussi faire un ensemble de la population.
Et je fais une parenthèse qui n'est pas simplement une parenthèse parce qu'en fin de compte, nos poumons ne sont pas dans notre corps. Ça, c'est une illusion. Nos poumons sont à l'extérieur de notre corps. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous, on prend de l'oxygène et on va rejeter du dioxyde de carbone. Mais les arbres font l'inverse. Donc nos vrais poumons, ceux qui nous fournissent l'oxygène, ce sont les arbres, la nature. Donc si on n'en prend pas soin, d'un certain côté, on se détruit nous-mêmes. Et c'est pour ça que la voie du yoga, et puis ces quatre grandes voies du yoga, ces quatre grandes sagesses du yoga, m'ont appris vraiment à prendre en considération l'importance de chaque règne minéral, végétal, animal, humain, divin, elfique, tous les autres, célestes, peu importe là où vous voulez aller.
Tous les règnes sont existants. Et en effet, on va y revenir à ces quatre sagesses que tu nourris dans ton livre. Mm-hmm. Quelles sont-elles, ces sagesses ? Déjà, est-ce qu'on peut les dire à l'antenne ?
Oui, puis j'aimerais bien que tu les dises, comme ça c'est plus sympa. À chaque fois, c'est moi qui les dis.
Alors, la première sagesse, c'est que ton esprit soit aussi clair que l'eau d'un lac de montagne.
Ouais, ouais.
Quelle belle image.
Ouais, c'est une belle image et ça va très bien avec ce qui est derrière cette image. C'est toute la voie du Raja Yoga. Raja veut dire la voie royale. C'est tout ce qui est méditation, respiration, yoga postural. C'est toute cette approche qui nous permet vraiment de faire un tri dans tout ce qu'on n'a pas besoin. Regarde, si tu observes, la plupart du temps, il y a un très faible équilibre entre notre activité, notre repos. Les gens, quand ils sont dans l'activité, sont hyper dynamiques, mais cette activité n'est pas sereine pour la plupart du temps. Et le repos, ce n'est pas un repos conscient, c'est un repos où le corps nous oblige à nous reposer parce qu'on va se ressourcer un peu. Mais quand tu associes ces deux, un repos conscient et une activité sereine, ça donne toute une autre dimension à ta vie. Et je dis toujours que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre esprit, et la qualité de notre esprit dépend de la qualité de notre respiration. Donc lorsqu'on fait attention à tout ça, on va s'apercevoir que oui, l'esprit devient plus clair, je suis moins éparpillé. Donc si je suis plus calme, plus serein et que mon esprit est plus clair, forcément, la relation que j'ai avec moi-même va être différente, mais la relation que j'ai avec l'autre va être différente. Et la relation que j'ai avec mon environnement va être différente. Je vais y porter plus d'attention. Donc je vais amener plus de bienveillance, que ce soit envers moi-même, envers l'autre ou envers le monde et l'univers. Oui, c'est nécessaire parce que même si une personne est hyper stressée, tu peux lui faire voir le plus beau tableau, il ne va pas l'apprécier. Tu peux lui faire voir les plus beaux paysages du Lot, et il y en a plein. Il ne va pas l'apprécier. Tu peux lui faire goûter le plus beau des repas, le plus beau mets, il ne va pas le savourer. En fin de compte, à chaque fois, lorsque notre esprit est encombré, c'est là où on perd de la qualité de notre vie. Et c'est pour ça que cette première sagesse est hyper importante, c'est prendre du temps pour soi. Et ça, cette première grande voie, c'est vraiment dire à l'individu, ok, prends du temps pour toi. Parce que c'est comme un pichet. Des fois, je pose la question, Daniel, aux personnes que j'ai dans mes stages, dans mes séminaires. J'ai quel type de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes un verre, un pichet, un robinet ou est-ce que vous êtes la source? C'est différent. Un verre, lui, il est obligé d'aller voir le pichet. Il ne peut pas se fournir nulle part. Et des fois, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'a pas beaucoup de force et on tend à le donner alors qu'on ne s'est pas pris le temps de boire quelques gorgées pour nous. Le pichet, lui, il peut servir plusieurs personnes, mais il a besoin de retourner au robinet pour se faire servir. Le robinet, lui, il ne se pose pas de questions. Lui, on l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme, il sait que la source est derrière. Mais on peut devenir aussi cette source, c'est-à-dire intarissable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de l'eau qui coule, de l'énergie qui coule en moi que je ne vis pas le manque. Donc, je dirais que cette première sagesse, c'est vraiment peut-être nous faire passer des étapes, passer du verre au pichet, du pichet au robinet, du robinet à la source.
Et est-ce que dans cette définition, on ne pourrait pas trouver l'analogie avec la souveraineté interne?
Si, bien sûr. On est au cœur de ce sujet, c'est-à-dire que avant de donner aux autres, c'est important de mieux se comprendre. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Donc c'est vraiment cette voie du Raja Yoga, c'est vraiment arriver à faire une paix en nous. Prendre conscience que je suis source, je suis joie, je suis sérénité, je suis amour. Mais ça, je peux le vivre que si je suis en contact avec. Et après, c'est facile de le rayonner. C'est simplement une émanation. Mais c'est la première étape. Et d'ailleurs, quelles que soient les grandes traditions, les grands maîtres des traditions, il y a toujours eu un temps d'introspection pour ces grands maîtres, parce qu'ils savaient que c'était essentiel pour eux. Avant de donner, il fallait comprendre déjà qui nous sommes. Donc ça, c'est vraiment une question essentielle, oui.
Il y a également que ton intellect soit aussi aiguisé qu'une lame de rasoir.
Oui, oui.
Ça a quelque chose d'assez pointu, tout ça.
C'est très, très pointu, c'est très, très pointu. Et puis, après, lorsque la sagesse est dévoilée dans le livre, chacun s'y retrouve, parce qu'effectivement, on a des expériences, donc c'est simplement arriver à mettre des mots derrière ce que les gens vivent comme expérience, mais des fois ils n'ont pas les mots pour le mettre, ils n'ont pas la compréhension. Donc là c'est vraiment, parce que tous ces grands textes de la voie yogique peuvent être très hermétiques, c'est une voie très complète.
Comme tous les dogmes finalement, ouais. Comme tous les textes, ouais. Très hermétiques, ouais. Où on a l'impression de comprendre sans comprendre, où on mésentend, ouais. Il y a vraiment une dissonance, ouais. Dans la manière dont on va les lire, dont on va les entendre, dont on va les, ouais. Percevoir et dont on va les transmettre.
C'est vrai.
Donc c'est là où c'est important de pouvoir avoir cette perception,
ouais. Ouais.
De cet intellect, ouais. Ce discernement, ce bon sens.
Oui, exactement. Et puis, c'est vrai, connaissance plus expérience égale sagesse. Mais la connaissance sans l'expérience, c'est sec. Et puis l'expérience sans la connaissance, ça n'a pas toute sa dimension. L'expérience donc de cette sagesse, c'est vraiment associé avec Jnana Yoga. Jnana Yoga, c'est la connaissance, la sagesse. Nourrir mon intellect de choses qui vont me nourrir. Et la première question, c'est qui suis-je? Comment je fonctionne? Quelle est ma relation avec cet univers? C'est toutes ces questions. Et le Jnana Yoga est très intéressant parce que effectivement, ça va nous donner de plus en plus de nourriture pour avoir un intellect qui discerne de plus en plus. Qu'est-ce qui est impermanent dans ma vie? Qu'est-ce qui est impermanent? Parce que ça, c'est des bonnes questions. Parce que combien de temps on porte toute notre attention sur les choses qui sont impermanentes? Ce que les autres ont dit de nous, ce que les autres pensent de nous, ce que j'ai mal vécu, ce que j'ai bien vécu, etc. Mais tout ça, sont que de l'impermanence. Mais quelle est la dimension en moi qui est permanente, qui me permet d'être stable? Et donc, cette sagesse, c'est nous permettre de faire le tri à un moment donné, dans faire la différence entre ce qui est essentiel dans ma vie et ce qui n'est pas essentiel. Et je crois que le discernement est d'autant plus intéressant parce que ça nous permet aussi de reprendre le pouvoir de notre vie, d'arrêter d'être le ballon de football des opinions des autres, ou d'arrêter de voir des intentions derrière aussi les actes des autres. Donc ça nous permet d'être vraiment alignés, plus d'alignement, plus de joie de vivre aussi, et puis arriver à mieux se comprendre. On est un mystère. Pour moi, c'est à chaque fois, je suis émerveillé de voir à quel point on découvre ce mystère que nous sommes. Et ça, c'est beau.
Et ce mystère purement individuel, complètement unique, parce que chaque individu a son mystère, a sa dimension propre aussi. Il y a également la troisième sagesse, que ta main droite serve la main gauche sans qu'elle le sache. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer?
En fin de compte, c'est très intéressant et c'est une phrase qu'on retrouve dans les évangiles, en fin de compte. C'est à un moment donné Paul qui donne cette phrase. C'est intéressant parce que j'allais faire de l'humanitaire au Népal et puis j'ai rencontré une amie. Ça m'avait interpellé parce que une amie que j'apprécie beaucoup, elle me dit « Oh Stéphane, c'est super ce que tu fais, c'est beau, c'est chouette. » Tu sais, j'ai réfléchi, ça va tellement mal dans ma vie que ben, j'ai envie de faire pareil que toi. J'ai dit « Non, non, stop. Stop. D'abord, travaille pour toi, fais l'humanitaire pour toi et après tu vas partager ta joie. » Et pour moi, c'est important parce que des fois, le service est oublié. On oublie que c'est important d'être dans ce don, mais le don ne peut venir et ne peut être profond que si on s'est donné à soi, on s'est vraiment renforcé soi-même. Donc, et des fois dans le service, on peut avoir une part d'ego, le fait d'aider l'autre, etc., ça peut nous donner un pouvoir sur l'autre des fois. Et là, c'est un petit clin d'œil en disant, voilà, que ta main droite puisse servir sans que la main gauche le sache. C'est simplement pour dire, c'est quelque chose qui doit émaner de nous, de notre joie, mais c'est pas quelque chose à faire tout un foin avec. Ouais, c'est pas, voilà, on n'a pas à se glorifier. Le service est naturel parce que ma main droite fait partie de mon corps, comme l'autre fait partie du grand corps cosmique que nous sommes. Donc c'est important et c'est une voie aussi tournée vers l'autre, c'est ça qui est important. Il y a la première sagesse qui est vraiment une voie tournée vers soi-même, la deuxième sagesse qui est une voie de compréhension de comment nous fonctionnons, et la troisième sagesse c'est une voie vraiment où maintenant, là, je peux être au service de l'autre. Donc ouais, c'est important.
Et la dernière, que ton cœur puisse aimer la création sous toutes ses formes.
J'avais une critique dans un quotidien et je crois que cette sagesse, non, là ça va trop loin.
C'est peut-être aussi pouvoir respecter déjà toutes les créations, quelles qu'elles puissent être, sans mettre de filtre.
Oui, j'aime bien la façon que tu le présentes, Daniel. Et puis arrêter aussi de confondre l'amour-émotion avec l'amour qui est notre substance. Ouais, c'est-à-dire que l'océan se meurt parce qu'il n'y a plus d'amour, les arbres se meurent parce qu'il n'y a plus d'amour, les êtres humains se meurent parce qu'il n'y a plus d'amour. L'amour n'est pas une émotion, c'est notre vraie nature. Lorsqu'on perçoit que nous sommes cette essence qu'est l'amour, après on prend une autre dimension dans notre vie, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à trouver l'amour à l'extérieur, on ne cherche pas à chercher la joie à l'extérieur. On est simplement une émanation de ce que nous sommes et naturellement, les gens se sentent bien autour de nous, ils se sentent bien dans votre présence. Et c'est un partage, l'amour est un partage. Donc c'est beaucoup plus une sagesse qui n'est pas liée du tout avec l'amour, émotion, je t'aime, tu m'aimes, si tu me quittes, tu ne m'aimes plus, si tu vas partir, tu vas me manquer. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est comment comprendre que la substance même dans laquelle on est fait, c'est cette vibration, c'est cette énergie, c'est cette lumière qui fait que sans ça, la vie ne vaut pas d'être vécue. Voilà. Et dans la voie traditionnelle védique, on le fait beaucoup à travers les mantras, les chants dévotionnels qu'on peut retrouver dans toutes les traditions. C'est vraiment, et puis le chant est beau parce que le chant, quand on chante, les deux hémisphères sont réunis. Il n'y a plus l'hémisphère gauche ou droit qui fonctionne séparément, non. Les deux sont réunis. Et d'ailleurs, la musique réunit. Même si on ne comprend pas les paroles, on vibre, on sent, il y a les sensations, il y a un échange qui se passe au-delà des mots. Et voilà, donc c'est sentir ce fluide, ce courant qui passe entre les êtres humains. Et je crois que d'autant plus aujourd'hui, on en a besoin. C'est pas quelque chose d'utopique, c'est pas quelque chose d'éthéré, non. Aujourd'hui, ce qui manque à notre société, c'est de prendre conscience que l'amour est essentiel. On a besoin d'amour, on a besoin de l'exprimer, on a besoin de le recevoir, et on a besoin surtout de le comprendre. De comprendre avec le cœur et pas avec la tête.
Voilà, ça arrivait à intégrer le fait que l'amour n'est pas une fantaisie, mais une réalité qui nous fait être qui nous sommes.
Ouais.
Et de par cette vibration d'amour, on va faire une pause musicale.
Yeah. Bhagavad-gītām tām śaraṇām gacchāmi yena dhamma pravartitām tām śaraṇām gacchāmi Charanam Gacchami Buddham Charanam Gacchami
C'était Yena Dhamma
oui.
de Stéphane Hérault. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces titres?
Oui, en fin de compte, c'est un mantra traditionnel. Hein. C'est les trois joyaux du Bouddha. Le Bouddha, Dhammam et puis Sangha. Donc, c'est l'être réalisé. Dhamma, c'est la voie, les enseignements. Et puis, Sangha, c'est la communauté, se réunir. Donc, c'est ce que vit un être réalisé à chaque fois. C'est-à-dire qu'il trouve ce que c'est être libre totalement. Ensuite, une fois qu'il a trouvé, il le partage. Et une fois qu'il le partage, il y a une communauté qui se crée. Donc ce sont les trois joyaux du Bouddha, c'est un mantra traditionnel dédié au Bouddha.
Donc qu'est-ce qui t'a inspiré pour constituer ton CD ?
En fin de compte, ce qui m'a inspiré, c'est si on m'avait dit que j'allais créer un album, quand j'étais jeune, je l'aurais jamais cru, et mes sœurs l'auraient jamais cru non plus. Mais ce qui m'a inspiré, c'est la puissance que peut faire la résonance de ces chants sanskrits, ces mantras. Mantra, c'est très très beau en fin de compte. Il y a cette répétition qui est intéressante et qui est nécessaire. Parce que si on observe, quelles que soient les pensées parasites qu'on peut avoir, les émotions négatives qu'on peut avoir dans notre esprit, le pattern, le schéma, c'est une répétition. Si une colère venait une seule fois et partait, on ne pourrait pas l'appeler colère, frustration, jalousie. C'est parce qu'il y a un cercle qui se répète, un cercle vicieux. Les anciens, les sages, ils disaient que pour briser le cercle vicieux, c'est important de créer un cercle vertueux. Donc le mantra, dans sa signification, est très intéressant quand on sépare ces deux racines, man et tra. Man a donné le terme manas, la pensée, et tra, d'ailleurs, ce qu'a donné la racine du mot transport en français, tra, c'est ce qui véhicule, ce qui libère. Donc le mantra, c'est ce qui libère l'énergie de la pensée. Donc quelle est ma pensée? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est bienveillante? Et à chaque fois que je suis dans ces chants mantras, il y a cette vibration de bienveillance, d'amour, comme je disais au tout départ. Et puis, on peut aller même jusqu'à là, des fois, il y a eu des belles expériences de guérison, des fois, de pardon, c'est impressionnant, des larmes qui viennent, de soulagement. Et c'est vrai que ces mantras sont très très puissants. Chaque mantra de cet album a une spécificité, même si comprendre intellectuellement la traduction n'a pas de sens, mais se laisser vraiment bercer par la vibration du mantra. Donc c'était beaucoup plus un échange et une reliance de cœur à cœur, d'âme à âme. C'était, voilà, c'est un peu ça l'intention derrière cet album.
Dans ta démarche de coach de vie, d'accompagnant, de conférencier, on ne va pas tout citer, hein, il y a trop de choses. Est-ce qu'on peut rajouter l'image de chanteur ou ce n'est pas une image qui te parle?
Oui, oui, c'est vrai que c'est pas tant, je suis pas chanteur en tant que tel dans le sens classique du terme, où je pars faire des concerts, non. C'est beaucoup plus une continuité à cet enseignement de la grande voie du yoga. C'est beaucoup plus une continuité, un prolongement, une facette, mais pas une étiquette.
Nous arrivons déjà bientôt au terme de cette émission. Stéphane, j'aimerais te laisser le mot de la fin.
Ce que j'ai envie de partager à tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est de leur dire qu'ils sont importants, que vous êtes importants, vous êtes aimés, choyés, protégés, dorlotés, beaucoup plus que ce que vous pensez, et que vous êtes importants. Ce qui est important, c'est de laisser tomber les comparaisons, laisser tomber les faux-semblants, et vraiment de vous connecter. « Waouh, je suis source, je suis cette fontaine de joie, cette fontaine d'enthousiasme. » C'est à l'intérieur de vous, et vous pouvez à chaque fois puiser, vous n'avez pas besoin d'aller quelque part très très loin, c'est juste à portée de main. Donc je dirais oui, ayez vraiment cette certitude, c'est déjà là, c'est déjà au plus profond de vous. Vous êtes des êtres de lumière, des êtres magnifiques, et vivez-le comme ça. Et vous verrez que les gens viendront à vous parce qu'ils sentiront que waouh, enfin on peut se connecter, on peut se connecter. Et puis aussi merci, merci Daniel, merci à Sylvie, merci à toute la radio d'Antenne Doc de m'avoir invité. Merci à Marie-Noël aussi, merci à la vie. Puis, ouais, un grand merci, c'est ça peut-être le mot de la fin, un grand merci.
Et je finirai sur les mots inscrits sur ton album. Puisse la paix, la joie, l'amour vous accompagner dans ce voyage. Ici, il est dit ce voyage musical, mais moi j'ajouterai ce voyage de vie. C'était Daniel, en compagnie de Stéphane Hérault, que vous pouvez retrouver sur son site stéphanehérault.com, oui. Mais également son livre « Les quatre sagesses du yoga » aux éditions Le Duc, et son CD « Sagesse » que vous pouvez trouver sur son site également. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. On se quitte avec un dernier morceau de Stéphane. À très vite.
Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti, Shanti, Om Shanti, 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 Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Shanti, 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 Om Shanti, 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 Om Shanti, 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 Om Shanti, Shanti.